Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce journal de Nu Info. Au menu, un deuxième cas d'Ebola confirmé à Goma, la capitale du Nord Kivu à l'est de la RDC. Les Nations Unies réagissent. Le chef de l'humanitaire de l'ONU dénonce l'inaction du Conseil de sécurité face au carnage à Idlib en Syrie. À la tête de la FAO, José Graciano da Silva fait de l'éradication de la faim sa priorité. Et en dossier, l'UNICEF compte renforcer son action dans la zone touchée par l'épidémie d'Ebola. En République démocratique du Congo, un deuxième cas d'Ebola vient d'être confirmé dans la ville de Goma, capitale du Nord Kivu qui compte 2 millions d'habitants. L'ONU travaille d'arrache-pied pour mobiliser tous les aspects des interventions afin d'y stopper toute nouvelle propagation de la maladie. C'est ce qu'ont affirmé le coordonnateur des interventions d'urgence d'Ebola, David Gressley, et le sous-directeur général de l'Organisation mondiale de la santé pour les interventions d'urgence, le docteur Ibrahima Sosefal. Pour plus de détails sur ce deuxième cas, on écoute le coordonnateur technique de l'équipe mixte de riposte au virus Ebola, le professeur Jean-Jacques Mouyembe, au micro de Radio Okapi.
C'est hier soir que nous avons eu l'information. Il s'agit donc de quelqu'un qui travaillait dans les mines, dans Ituri. Il habitait la zone de santé de Nirangongo, près donc de Goma. Il a quitté là et puis il est arrivé donc à Nirangongo où il a commencé donc à développer les symptômes, donc fièvre, maux de tête, diarrhée, etc. Et au moment où l'infirmier qui le soignait a constaté qu'il y avait donc des signes hémorragiques, l'infirmier l'a donc acheminé au centre de traitement de Goma. Et les résultats étaient positifs. Son état était vraiment très grave. Ce matin, il vient donc de décéder. Alors, on a pris les mesures et immédiatement, nous avons demandé quelles des molécules thérapeutiques soient amenées ici à Goma à partir de Beni. Ça devait donc arriver ce matin.
Le chef de l'humanitaire de l'ONU, Mark Lowcock, a dénoncé mardi l'inaction du Conseil de sécurité face au carnage en cours à Idlib. Selon le commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, au moins 450 civils ont été tués depuis le début de l'offensive gouvernementale dans cette région du nord-ouest de la Syrie, dont plus d'une centaine rien qu'au cours des deux dernières semaines. Pascal Sim revient sur le cri d'alarme de Mark Lowcock devant le Conseil.
Depuis plus de 90 jours, les bombardements et le pilonnage du gouvernement syrien, soutenu par la Russie, ont produit un carnage dans la zone dite de désescalade à Idlib, a dit Mark Lowcock. Un carnage et une indifférence de la communauté internationale qu'avait déjà dénoncé la chef des droits de l'homme de l'ONU, Michelle Bachelet. Pour Mark Lowcock, le Conseil de sécurité est bien au fait de ce qui se passe à Idlib. Mon bureau et moi-même vous ont informé à 7 reprises à ce sujet depuis le 29 avril, date à laquelle l'offensive a commencé, a-t-il tenu à rappeler aux membres du Conseil. Le coordinateur des secours d'urgence a défendu la véracité des informations dont son bureau dispose sur la situation à Idlib et des sources qui les lui fournissent. Vous, au Conseil de sécurité, avez ignoré tous les précédents appels que vous avez entendus. Vous savez ce qui se passe et vous n'avez rien fait depuis 90 jours, alors que le carnage continue devant vos yeux, a dit Mark Lowcock devant les 15. Allez-vous à nouveau hausser les épaules, comme l'a dit Michelle Bachelet, ou allez-vous écouter les enfants d'Idlib et faire quelque chose à ce sujet, leur a-t-il demandé.
La lutte contre la faim et les autres formes de malnutrition a été la priorité du Brésilien José Graciano da Silva lors des 8 ans de son mandat à la tête de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO. Il quitte ses fonctions aujourd'hui. Le Chinois Xu Dongyu lui succède. Une cérémonie de passation des pouvoirs entre les deux hommes a eu lieu ce mercredi à Rome. Au micro de Carlota Lomas de la FAO, José Graciano da Silva revient sur ce dont il est fier d'avoir accompli à la tête de la FAO.
Je dirais que le plus important pour moi était de ramener la FAO à la mission principale pour laquelle l'organisation a été créée après la Seconde Guerre mondiale, qui était d'éradiquer la faim. Nous luttons contre la faim depuis notre naissance. La première approche consistait essentiellement à augmenter la production. Plus de denrées disponibles permettraient d'éliminer la faim. Cela ne s'est pas produit. Aujourd'hui, nous produisons suffisamment de nourriture pour nourrir le monde entier, mais plus de 820 millions de personnes ont encore faim. Nous avons donc compris que nous devions également examiner la question des moyens. Parfois, les gens n'ont pas l'argent nécessaire pour acheter la nourriture dont ils ont besoin. La FAO a commencé à œuvrer pour rendre les aliments plus abordables, rendre les aliments disponibles pour les populations. Je pense que cela a été le changement le plus important que nous ayons mis en œuvre.
Retour sur l'épidémie d'Ebola qui sévit à l'est de la RDC depuis bientôt un an. L'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, vient de lancer de son côté un appel pour tripler son budget face à la situation humanitaire en République démocratique du Congo. Au micro d'Alpha Diallo, Jérôme Pfaffmann, spécialiste de la santé à l'UNICEF, explique comment cet investissement massif permettra de mieux contrôler l'épidémie et répondre aux besoins.
Je pense que c'est important après un an dans cette réponse à l'épidémie au nord-est de la RDC de se rendre compte qu'on a besoin de faire plus. On est arrivé à mettre en place des programmes, on apporte à faire en sorte que cette épidémie ne soit pas hors de contrôle, mais on n'a pas encore réussi à la contrôler. Pour pouvoir arriver à contrôler cette épidémie, il y a un changement qui va être nécessaire dans notre façon d'intervenir et c'est ce que le plan stratégique met en place, c'est qu'on doit non seulement continuer à intensifier nos réponses pour le contrôle de l'épidémie d'Ebola, mais on doit également apporter une réponse plus large aux besoins des communautés qui vivent dans des conditions humanitaires et sociales très très complexes. Donc cela signifie clairement que, en plus de nos activités d'Ebola, on doit également mettre en place des programmes de vaccination, d'accès aux soins, de protection de l'enfance et d'accès à l'eau et à l'assainissement, afin que ces communautés qui sont affectées par Ebola puissent bénéficier d'une réponse complète qui réponde à leurs besoins et ainsi améliorer cette réponse à l'épidémie en même temps que cette réponse à leurs besoins.
Concrètement, vous avez besoin de combien ?
Concrètement, on est en train de retravailler maintenant sur le budget exact, mais on considère qu'un triplement de notre budget sera nécessaire pour pouvoir à la fois travailler sur l'intensification de nos activités pour le contrôle épidémique. Et là, on cherche à peu près 70 millions de dollars, 30 millions de dollars pour mettre en place des activités, continuer des activités dans les zones à risque et renforcer les capacités des communautés à lutter contre Ebola dans ces zones à risque. Et enfin, encore 70 millions de dollars additionnels pour tous ces programmes de soutien aux communautés et pour mettre en place des programmes de soins de santé primaire, d'éducation et de réponse humanitaire.
C'est-à-dire que c'est des besoins qui vont passer de 50 millions à presque 170 millions. C'est-à-dire maintenant, si vous ne recevez pas cet argent, qu'est-ce que vous redoutez en termes de réponse par rapport à ces crises en RDC ?
C'est le moment où on doit investir beaucoup et massivement maintenant pour pouvoir contrôler cette épidémie et répondre aux besoins. Si on ne le fait pas maintenant, ce que je redoute, c'est qu'on revienne 6 mois, 1 an plus tard et qu'on demande encore plus. Parce que plus on attend, plus on aura besoin d'investir. Donc c'est un investissement beaucoup plus important aujourd'hui, mais qui nous permettra de faire des économies sur des investissements à venir. Parce que c'est qu'on est à un moment où on peut y arriver. Si on fait ces investissements, si on intervient simultanément dans tous les lieux avec une grande intensité et qu'on répond à la fois aux besoins essentiels des communautés et au contrôle l'épidémie, alors on aura la possibilité de contrôler cette épidémie et j'espère ne pas être là l'année prochaine pour pouvoir faire un autre appel parce qu'on n'aurait pas reçu suffisamment d'argent.
Lors de la conférence de presse, vous avez décrit la situation humanitaire en RDC comme une situation complexe par rapport aux autres épidémies. Pourquoi ?
C'est la première fois qu'on a une épidémie d'Ebola dans une zone de conflit et avec une crise humanitaire associée. Cette complexité, elle réside dans cette dualité d'avoir à la fois une réponse à une épidémie à mettre en place et en même temps des communautés qui font face à une crise humanitaire. C'est cette conjonction de ces deux crises qui rend cette réponse si complexe et qui nécessite cet investissement qui doit être à la fois tout autant pour la réponse humanitaire et sociale des communautés que pour la réponse au contrôle épidémique.
Dernière question, est-ce que c'est une urgence du fait que vous avez aussi décrit une proportion sans précédent de la part des enfants atteints par Ebola ?
Alors, je vais vous dire que c'est une urgence qu'il y ait un enfant ou qu'il y en ait un nombre sans précédent. De la même manière, ça nécessite tout notre engagement et que ça nécessite une prise en charge de 7 ou 16 enfants. Le nombre d'enfants ne fait pas l'urgence, mais il se trouve que dans cette épidémie, il y a un nombre très important, une proportion très importante, ce qui nous oblige à réagir de manière spécifique pour que des programmes spécifiques soient mis en place pour protéger les enfants et les prendre en charge.
Voilà, fin de ce journal de Nu Info, à retrouver sur notre page internet et nos comptes Twitter, Facebook et SoundCloud. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.